On va donc passer à la seconde phase de ce rendez-vous. C'est cette table ronde avec différents acteurs de la vie qui vont pouvoir nous parler de leur expérience quotidienne dans leur façon d'agir pour la planète, de la facilité avec laquelle ils le font ou des difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans l'adhésion voilà, de leur projet sur tout ce qu'ils mettent en œuvre au quotidien. La diversité des personnes qui vont témoigner aujourd'hui va nous permettre vraiment d'aborder la question de l'écologie et de notre action individuelle pour la planète sous différents prismes. Nous avons avec nous aujourd'hui Sœur Claire Amael, qui est membre de la Fraternité Monastique de Jérusalem et qui va nous parler de l'action des frères et des sœurs qui vivent au Mont-Saint-Michel et plus largement aussi avec une représentante de l'église locale et donc de la teinte verte que le diocèse tend à prendre. Je m'éloigne à nouveau, je vais être devant les gens, c'est peut-être pas l'idéal. Mathilde Lamotte-D'Argile, vous êtes une représentante du Festival des Pluies de Juillet, vous êtes une des co-organisatrices en charge de la communication notamment, du Festival des Pluies de Juillet, qui est un rendez-vous vraiment qui veut s'engager dans la transition écologique et qui, voilà, vous découvrez toutes les actions qui sont mises en place pour y parvenir. Sonia Mignon, vous êtes à la tête du domaine des Ormes, c'est un domaine touristique à quelques pas d'ici, en direction de Saint-Malo. Vous accueillez chaque année des milliers de touristes et vous allez montrer comment il est possible de faire rimer économie et écologie. Normalement, ce ne sont pas incompatibles et vous en êtes la preuve, merci d'être là. Valérie Nouvelle, vous êtes conseillère départementale en charge de la transition écologique au conseil départemental de la Manche. Vous avez notamment au cœur d'arriver à convaincre les gens que l'écologie, ça peut être facile à partir du moment où on en a envie, vous allez nous décliner tout cela. Et puis François Lamotte-D'Argile, vous êtes ici un peu chez vous, vous êtes guide de la baie, vous êtes né ici. On va commencer peut-être cette table ronde avec vous. Vous traversez cette baie, vous profitez de cet environnement au quotidien. Je vous laisse vous saisir dans le micro qui doit être sur la table. François.
Bonjour. Ça a l'air de fonctionner.
Vous observez au quotidien l'évolution du monde qui nous entoure de cette baie du Mont-Saint-Michel. Quel constat vous dressez aujourd'hui au cours de vos traversées en baie?
Alors, tout d'abord, j'aimerais parler de l'effet produit chez les clients qui viennent avec moi pour traverser la baie, pour se ressourcer en nature, dans une vie qui est extrêmement agitée et qui les détourne parfois de bonheur simple qu'est d'être dans la nature, de profiter de ce qui nous est donné gratuitement et qui est à mon avis quelque chose qui permet de trouver un équilibre. C'est quelque chose d'étonnant, l'effet produit chez ces personnes qui réalisent tout d'un coup, qui semblent réaliser, et avec surprise, que prendre du temps pour vivre dans la nature, c'est quelque chose qui fait un bien fou et qui et dont on se prive de façon un peu idiote, parce que c'est quelque chose à la portée de tous. Donc, ça c'est le premier point. Je pense que au-delà des considérations intellectuelles sur l'avenir de la planète, comment est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation et cette menace d'ordre environnemental, tout simplement le fait de prendre plus de temps pour se ressourcer, on a évoqué tout à l'heure des personnes qui devaient se retirer pour remettre un peu les pendules à l'heure. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut faire dans les questions que vous posiez en introduction. Vous nous interrogez sur les limites et les obstacles auxquels on se heurte. Eh bien, il arrive parfois quand même que je tombe sur des personnes qui arrivent préoccupés par ce quotidien qui les amène à réfléchir, à ruminer tous leurs soucis d'ordre professionnel essentiellement. Et parfois, ces gens-là n'arrivent pas à s'ouvrir aux beautés de la baie. Et là, effectivement, j'ai l'impression d'avoir échoué. Mais ça reste quand même pas fréquent.
Oui, hein.
Voilà.
Cette baie, est-ce qu'on fait suffisamment aujourd'hui, alors, tous individuellement, pour la protéger?
Voilà, ça c'était le deuxième aspect. La baie est balayée par des marées dont l'intensité est variable en fonction de la lune, etc. En fonction de la force de la marée, on va avoir plus ou moins de déchets qui vont se déposer. Aujourd'hui, force est de constater que beaucoup de déchets proviennent non pas du tourisme, mais des activités humaines et notamment des activités de pêche. On est plusieurs depuis longtemps à ramasser des déchets qu'on trouve sur l'itinéraire. Alors c'est un peu difficile d'inviter nos clients à s'émouvoir sur les beautés de la nature tout en courant, en faisant des détours pour aller ramasser les déchets plastiques amenés par la marée. Après, je le fais pas toujours, je l'avoue, mais j'essaye de le faire plus particulièrement avec les plus jeunes. J'invite les gens à venir remplir un sac poubelle que je mets à leur disposition et ils finissent par trouver ça finalement bien parce qu'ils se sentent utiles. Et ça peut être un moteur, à mon avis, dans cette transition qu'on voudrait aborder, parce que c'est fédérateur. Et faire tous ensemble quelque chose pour viser un même but, je pense que ça peut nous amener plus loin qu'on le pense. Pour continuer sur cette détérioration de la baie, au-delà des déchets, il y a aussi quelque chose qui me préoccupe beaucoup et qu'on tait depuis vraiment trop longtemps aujourd'hui, c'est l'impact alors je sais que c'est un sujet qui est absolument pas correct politiquement, l'impact du rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel, qui visait d'abord et avant tout, comme son nom l'indique, le désensablement des abords immédiats du Mont-Saint-Michel, et qui aujourd'hui provoque paradoxalement un ensablement d'une grande partie de la baie au nord et à l'est. Alors, si je peux aller un peu plus loin dans l'explication,
pas. On ne va pas rentrer dans des détails qui sont trop techniques parce que
ça peut être assez simplifié.
L'ensablement pourrait être en soi un thème de table ronde, mais évidemment, Valérie Nouvelle du Conseil départemental aussi, j'imagine que vous avez travaillé sur tous ces sujets-là, donc vous serez de nature à répondre à François Lamadarchi sur ce point. Je vous en prie, continuez votre démonstration.
Pardon, j'ai pas entendu. C'est bon. Ce projet visait à rétablir la beauté du site en restaurant et en préservant le caractère insulaire du Mont-Saint-Michel avec un outil qui était la force hydraulique du Couesnon, sur laquelle on a construit un grand barrage dont les portes s'ouvrent lors de la marée montante. À l'étal de pleine mer, les portes se ferment et à l'origine, lorsque le lit du Couesnon était encore contenait suffisamment, n'était pas ensablé et l'anse de Moidré, on pouvait capter un gros volume d'eau de mer qui était ensuite relâchée à basse mer pour créer une dépression, une sorte de fosse tout autour du Mont Saint-Michel, qui permet ainsi à la mer de revenir et entourer aux merveilles. On peut s'émerveiller devant la beauté du mont comme une île. Le Mont Saint-Michel, il est dans une zone de transition entre le continent et la mer. C'est assez simple de comprendre que la baie est en pente douce et le mont étant quasiment collé à la rive sud du continent, on a baissé le niveau autour du mont par ces chasses d'eau, mais les fleuves de la Cécélune ont complètement changé l'itinéraire qu'elles avaient autrefois. Autrefois, elles divaguaient sur la partie plutôt nord de la baie, entre Tomblaine et le bec d'Andenne, et désormais, elles ont complètement changé leur trajectoire, et ça c'est nouveau, et c'est clair que c'est la conséquence directe de cette fosse qu'on a créée. Elle s'est calée dans le sud, elle n'en sort plus, et toute la partie nord de la baie sensable à une vitesse jamais égalée. Je vais citer un chiffre, on est passé d'une accrétion estimée à environ 3 cm par an, ça c'est vérifié par des relevés LIDAR, y a un avion qui survole et pour mesurer la topographie de la baie, mais aussi des relevés laser faits depuis la flèche du Mont-Saint-Michel. Oui, voilà, donc le fleuve ne va plus visiter et provoquer une érosion lente, mais homogène et continue et permanente pour ramener les sédiments apportés par la mer. Elle va droit dans ce trou, puis vers le Couesnon.
C'est peut-être un effet de bord, comme on disait aussi tout à l'heure, de ces transitions qu'il faut adopter. Alors, je ne sais pas, Valérie Nouvelle, ce n'est pas forcément le sujet sur lequel vous étiez venue parler. vous êtes représentante du conseil départemental de la Manche, néanmoins. De toute façon, la question de l'ensablement du Mont-Saint-Michel, si vous voulez prendre un second micro, c'est une question de préoccupation, j'imagine, pour les élus du département, y compris dans son contexte écologique.
Bien sûr que c'est un sujet pour les élus. Je rappelle que c'est un projet qui a deux régions, deux départements, des intercos, l'État. Donc ça me ferait beaucoup de peine de concentrer en fait cet échange sur cette question-là, même si, comme vous, je le constate, je suis élue de l'ensemble de la Manche. Ce que je constate aussi, c'est dans le Val-de-Serre, tout au nord du département, où en fait il y a des simulations de cinétique du trait de côte, où en fait on expliquait que ce serait une échéance 10 ans, puis vous voyez, ça s'est passé en 2 ans. Donc c'est vrai que ça, c'est des choses, je ne dis pas qu'il faut rester au stade du constat, mais c'est pour vous dire qu'on est sur des dynamiques, comme disait Nicolas Hulot tout à l'heure, qui sont extrêmement rapides, et aujourd'hui qui s'accélèrent. Donc il nous faut effectivement réagir collectivement à ce point-là. Ça c'est une préoccupation, c'est une de mes préoccupations. Effectivement, vous parliez de LIDAR, de surveillance, peut-être de changer d'échelle d'investigation sur la baisse qui n'avait pas été fait au début. Vous voyez, c'est un projet que moi j'ai pris en route en 2015, qui était déjà acté dans son fonctionnement. Aujourd'hui, on le vit, c'est à nous aussi de nous adapter une seconde fois à ce qui se passe. C'était pour s'adapter à l'aspect ensablement, mais aujourd'hui je pense qu'il faut s'adapter à ce que l'on observe au niveau de la baie et réfléchir à nouveau collectivement sur la façon dont on le gère.
Quelle réaction justement, quelles actions du conseil départemental à l'intention des habitants de la Manche pour essayer de favoriser cette transition écologique localement?
J'aimerais bien faire le lien avec ce que vous avez dit sur les déchets, sur le fait que vous ramassez en fait les déchets dans la baie. Parce qu'en fait, vous voyez, ça c'est une belle action complémentaire à votre action citoyenne et de guide dans la baie. C'est qu'en fait, au niveau du département, donc j'ai répondu à un appel à projet Interreg entre plusieurs pays, parce que je crois à cette intelligence collective internationale, et c'est un projet qui vise à prévenir les pollutions plastiques. Et donc, en ce moment, donc j'ai financé, donc à travers ma délégation, un ensemble, donc une association qui met en place des collecteurs à déchets le long des rivières de la Manche, parce qu'on sait qu'en fait, 80% des déchets qui arrivent au niveau de la mer viennent de la terre. Et ça, pour moi, c'est un exemple. Vous ramassez les déchets. Je ne veux pas, effectivement, que vos traversées se transforment en collecte des déchets. Vous l'avez vous-même mentionné. C'est compliqué. Il faut que j'aille droite à gauche pour prendre des déchets, alors que je suis là pour faire vivre un moment magique les visiteurs dans la baie. Et bien, en fait, en finançant ces collecteurs, c'est une association donc, qui les met en place avec les collectivités. Donc, en tant que département, j'impulse cette dynamique avec à la fois le fait que le département est sur l'ensemble du territoire, donc l'ensemble des rivières, l'ensemble des fleuves qui se jettent dans la mer, et on a 250 km de côte, donc on a des frais autour de la Manche. Et ensuite, effectivement, c'est les citoyens qui, déjà, eux, en se promenant le long des rivières, vous empêche de retrouver certains déchets dans la baie. Et je trouve que ça, c'est un lien entre le rétro-littoral et en fait d'implication de l'ensemble des Manchois et pas seulement ceux qui sont dans les côtes, qui est un bel exemple de ce que peut apporter un département. C'était pour la transition avec ce que vous avez dit.
Les collectivités répondent favorablement. Tout le monde s'engage assez facilement à accueillir ces composteurs, ou est-ce que vous avez ici et là encore des communes où on ne voit pas bien l'intérêt?
Ah non, non. En ce moment, vous voyez, on a... En fait, j'ai acquis dans un premier temps 120 collecteurs pour permettre à l'association de les mettre en place rapidement. Et elle me sollicite gentiment chaque fois qu'elle en met en place quelque part pour me demander si je veux être à ses côtés pour porter ce message de l'importance de gérer les plastiques en amont. Et mes journées de la semaine, tous les jours de la semaine, ne me suffiraient pas. Donc il y a un vrai engouement, et je pense qu'il y a un vrai engouement des collectivités et aussi des habitants. Et je suis en fait très heureuse de répondre à cette préoccupation de lutter contre les pollutions plastiques des habitants en leur donnant les moyens de le faire.
Mathilde, la mode d'Argy pour le festival des Puy-Juillet, j'imagine que quand vous entendez ce genre de témoignage avec l'action des élus, des collectivités, mais aussi des habitants, c'est forcément de nature à vous réjouir. C'est exactement ce type d'initiative que vous soutenez et que vous cherchez à mettre en lumière à travers ce festival des Puy-Juillet.
Oui, exactement. Alors, je peux présenter peut-être en deux mots le festival. Il s'agit d'un festival qui se trouve dans la ville qui répond au doux nom de Villejoyepoil, dans la Manche. Les Sourdans, tout à fait. Une très jolie ville avec des jolies cours médiévales qui est souvent méconnue. Alors en fait, l'objectif de ce festival, c'est tout simplement de sensibiliser un maximum de monde aux enjeux environnementaux et sociaux que nous connaissons tous maintenant. Il est né il y a 3 ans. Alors pour la petite genèse, en fait à la base, on était simplement 2 dans l'équipe. Le festival n'existait pas encore. On est allé voir le film documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent, Demain, que vous avez sûrement vu, je pense. En fait, rapidement, ce film, il recense un très grand nombre d'initiatives positives pour l'environnement et à travers le monde. Et en sortant de ce film, comme un grand nombre de personnes, on s'est dit, ok, le constat est dressé, c'est absolument dramatique et inquiétant, qu'est-ce que nous, on peut faire à notre échelle? Moi, à l'époque, j'étais étudiante, voilà, j'avais une petite vie, je savais, enfin voilà. Et en fait, ce film, il est très chouette parce que le combat qui est à mener, il peut être terriblement inhibant, et il l'est de fait, tellement la tâche est grande. Mais voilà, ce film, il montre que chacun, à son échelle, on peut faire des choses. Et surtout, ce qui est frappant, je trouve, c'est, pour reparler de solidarité, etc., c'est le fait qu'en fait, il faut être à plusieurs. Entreprendre tout seul, c'est impossible. En fait, le matin, quand on se lève, je ne sais pas si vous ressentez ça aussi, mais souvent, et particulièrement en ce moment, quand on se lève et qu'on regarde les informations, qu'on écoute, qu'on lit le journal, c'est compliqué, quoi, de trouver le moteur, de trouver l'envie. Voilà, et pour revenir au festival, donc, avec toutes ces émotions, toutes ces idées, on a réfléchi, et finalement, on est maintenant un groupe d'une dizaine de personnes à organiser ce festival avec Dieu. Le concept du festival, il est assez simple. On utilise l'art et la culture en général, donc ça peut être le cinéma, la musique, la littérature, le théâtre, pour amener les questions environnementales au centre des discussions pendant 3 jours. Donc on essaye de rendre l'événement convivial et festif, ce qui fonctionne plutôt bien, avec 2 objectifs. Le premier, donc je le disais tout à l'heure, de sensibiliser, tout simplement en informant les gens. Alors nous, petite équipe, on n'a pas la prétention on n'a pas des connaissances. Mes connaissances sur plein de sujets sont absolument lacunaires, mais néanmoins, on se voit comme un groupe d'agrégateurs, si je puis dire ainsi. Donc on invite différentes personnalités. La première année, on a eu la chance de réussir à convaincre Cyril Dion donc, de venir et de parrainer le festival. On a eu Claude et Lydia Bourguignon, par exemple, donc des agronomes et ingénieurs émérites. Cette année, Daniel Cueff et Damien Carême, donc des maires qui se sont investis de manière ultra positive dans leurs communes respectives, qui ont fait, et surtout je prends l'exemple de Damien Carême, ancien maire de Grande-Synthe dans le nord de la France, qui en fait a réussi à démontrer que l'écologie ça coûtait pas forcément cher en fait, et que l'écologie pouvait être sociale. Voilà, je m'étends, pardon, je n'ai pas l'habitude de parler en public donc je digresse un peu, mais vraiment l'idée c'est de... l'idée vraiment c'est d'informer, de sensibiliser en informant, en invitant des spécialistes. Et ensuite, dans un deuxième temps, pour reparler de Nicolas Lowe, tout à l'heure, vous parliez des imaginaires, on utilise la culture et l'art parce que c'est un moyen de créer des imaginaires, de réveiller des imaginaires. Finalement, c'est un moyen d'ouvrir le champ des possibles. C'est-à-dire qu'un monde sans culture, et en ce moment, la question se pose, c'est très dangereux puisque sans culture, sans spectacle, sans littérature, c'est très facile d'écraser les imaginaires des gens et de les laisser penser que le modèle en place est le seul modèle possible. Voilà.
Donc, c'est aussi comme ça qu'on attire le grand public? Parce que si vous communiquez autour d'un festival écolo, vous avez peut-être l'occasion de passer à côté de gens qui n'arriveront pas, qui ne se sentent pas intéressés. Alors que si vous attirez pas à la culture, c'est ça l'objectif aussi. d'élargir et de ne pas rester entre nous.
Exactement, c'est une des portes d'entrée du festival, c'est vrai, ça fonctionne parce que par exemple cette année, on a repensé tout notre festival à cause du Covid, on a dû changer de format et on a fait 15 modules. Ce que j'appelle module, en fait, c'est une conférence et un concert. Et c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Donc vous avez envie d'aller voir cet artiste que vous aimez tant, mais il faut plutôt passer par la case conférence. C'est des conférences pas forcément très longues. Après, mais ça fonctionne. Vraiment, je suis hyper contente de le dire, ça fonctionne. Et inversement, il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont envie d'entendre la conférence et ils écoutent de la musique et ça leur ouvre aussi une porte. Et également, une autre porte d'entrée, c'est qu'on essaie de faire... Bon, cette année, c'était un peu compliqué, encore une fois, à cause du Covid, mais sinon, la majorité des activités est gratuite. Et même si ça coûte 1 euro, c'est une première limite, en fait. Et si, voilà, donc c'est notre manière à nous d'aller chercher des gens qui ne sont pas du tout intéressés par toutes ces questions-là. Voilà, et pour l'instant, ça... Pardon, je m'étends beaucoup.
La question environnementale, Sœur Claire Anaëlle, est-ce que c'est une question qui s'est toujours posée au sein de votre communauté? Je crois savoir que pendant le confinement, justement, vous avez réussi à passer une étape. On peut dire ça, hein, une étape.
On peut dire ça, une grosse étape. Enfin, alors, quand on m'a posé un peu la question pour savoir le souci qu'on avait, donc nous, on habite dans un lieu merveilleux, l'abbaye du Mont-Saint-Michel, donc on est 7 sœurs, et puis il y a aussi la communauté des frères qui est à côté. Donc souvent les gens, je fais juste une petite introduction, disent que c'est magique, mais en fait avant tout c'est merveilleux, parce que c'est un lieu qui n'est pas le coup d'une baguette magique, mais vraiment qui pousse à l'émerveillement, bah, vous le savez parce que vous êtes de la région, et un émerveillement parce qu'on en a pris soin et qu'on continue d'en prendre soin, que ce soit de l'abbaye, du village ou de la baie, et de pouvoir habiter dans un tel écrin de beauté, c'est sûr que ça nous réjouit. Alors pour autant, quand on nous a demandé de participer à cette table ronde, j'étais un petit peu embêtée parce que je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents et qui font beaucoup plus d'actions que nous. On nous a quand même sondé un petit peu sur ce qu'on faisait.
Il n'y a pas de petite action.
Et voilà, donc là ça m'a rassurée. Je me suis dit, on y va. Parce qu'à la base, notre vie elle est quand même très simple et sobre. Alors que faire en plus? Et comment le faire? Alors, on a réfléchi ensemble et je vais vous donner un tout petit exemple mais qui montre en fait la force de la communauté et aussi ses limites. Donc, nous, on s'appelle Fraternité Monastique de Jérusalem. Donc, j'étais très heureuse qu'on entende souvent parler de ce mot de fraternité parce qu'effectivement, à un moment, il va falloir s'y coller tous. Et donc, bah, pour nous, ça nous interpelle fortement et on voit effectivement qu'en étant authentique dans notre vie et cohérent, on a aussi quelque chose à dire. Alors, je vais vous donner l'histoire du compost. Chez nous, on est en communauté, donc on n'est pas tous d'une même famille et on n'est pas tous d'un même milieu. Donc, il y a des pro-écolos et des moins écolos. Ceux qui sont peut-être moins sensibles à ça, moins éveillés, qui se disent que c'est peut-être... On a plein de choses intéressantes et que c'est peut-être moins intéressant. Donc, il y a un moment, il y avait une sœur qui dit on pourrait peut-être commencer à faire un petit compost. Alors, nous, on habite en haut, le jardin est en bas.
Et puis, il y a la problématique de l'évacuation des déchets de façon générale.
Très concrètement, déjà, les poubelles, il faut les descendre encore plus bas. Donc, c'est une question aussi très pratique. Donc, bon, on a écouté, on s'est dit, et pourquoi pas? Mais il y a un peu l'inertie aussi du groupe. Une toute seule ne peut pas, en fait, faire tout. C'était il y a 3 ans, hein. Donc quand on dit qu'il faut du temps, oui, il faut du temps, mais après, une fois que des choses sont mises en place aussi, elles le sont parce qu'elles ont été choisies par toutes. Donc j'en viens au compost, on revient au compost, donc il y a 3 ans. Et puis cette sœur était quand même assez convaincue, donc on parlait de temps en temps. Du coup, ça a interpellé certaines. Et puis, il y a eu une période, donc les questions c'était où est-ce qu'on va faire le trou? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut faire? Quand on ne connaît pas? Donc la motivation était vraiment moindre. Et puis il y a eu le temps du confinement. Et que même si dans notre vie on a du temps, on a du silence, ce temps était quand même un temps privilégié pour nous, pour se poser. Et la question du compost est revenue. Et là on a eu le temps en fait, tout simplement de se dire en fait c'est quand même pas une mission impossible. Et peut-être, alors on était, sur le moment, on était 17 confinés, donc on n'était pas très nombreux, on était beaucoup moins sollicités que d'habitude. Donc on s'est dit, c'est peut-être le moment maintenant de choisir où on va le faire, ce trou, de prendre le temps, de prendre les pelles et de le faire, et de se dire qu'en fait, ça prend pas tant de temps. Et en fait, pour moi, c'est un petit détail tout simple. Mais aujourd'hui, on voit aussi qu'on l'a fait, qu'il nous a fallu du temps pour ensemble choisir et de mettre quelque chose de tout simple en place et de se dire que c'est quand même pas une mission impossible. Et pour moi, aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'on est heureuse de l'avoir fait à notre mesure. C'est franchement pas démesuré, mais maintenant il est fait et on l'utilise. Et c'est très bien.
Marie-Charlie Contrac, dans la globalité. Sonia Mignon, vous êtes à la tête d'un domaine touristique, donc à quelques pas d'ici. Et vous engagez justement vos collaborateurs, vos salariés, à s'associer tout pleinement à vos actions. Au cœur de ce domaine touristique, il y a des lodges, etc. Vous engagez aussi vos clients à participer à la démarche écolo.
Oui, alors tout à fait. Pour resituer un petit peu le domaine des Ormes, donc nous sommes de l'autre côté du Couesnon, en Bretagne. Et c'est un site que nous habitons depuis 1860, la famille. C'est l'ancien évêché de Dole. Donc nous sommes aussi dans un lieu chargé d'histoire. Et en fait, nous recevons 3500 personnes qui dorment sur site tout l'été. Donc beaucoup d'étrangers jusqu'à cette année. Donc cette année, on s'est tourné vers nos voisins. Et nos voisins d'Ille-et-Vilaine, de la Manche, de la Mayenne, sont nos clients. On est en train de devenir une économie très locale. Ça nous fait très plaisir. C'est une petite introduction. Donc 3500 personnes en été, c'est une petite ville. Mais c'est aussi une entreprise privée qui a 45 ans, gérée par une famille et une fratrie. Donc mon frère, ma sœur et moi. On n'a pas les moyens aujourd'hui d'engager des choses décisives sur l'environnement. C'est une de nos problématiques, c'est de faire des choses décisives. On fait des choses, on est clés vertes, on travaille sur nos déchets, on travaille sur beaucoup de choses. Mais quelle est l'action qui va vraiment se voir, qui va être importante? Et qu'on n'en a pas les moyens, surtout dans la période actuelle où évidemment les urgences ont pris le pas sur le long terme. Donc ça fait plusieurs années, 3 ou 4 ans, que je travaille la coopération dans l'entreprise et où on a mis l'équipe au centre de nos décisions. Alors les clients, c'est vraiment le cran d'après, on travaille plus sur les équipes.
Oui, parce que vous disiez aussi, quand on a préparé un peu ces échanges, qu'ils sont en vacances malgré tout et que pour ne pas vivre l'écologie comme une contrainte, il ne faut pas trop arriver en moralisateur.
Et il faut qu'ils le ressentent, pas qu'on leur impose. Donc ça passe par nos équipes. Nos équipes, c'est 125 personnes à peu près à l'année, on monte à 300 l'été, donc ça fait un paquet de monde. Beaucoup de jeunes, très sensibles, on a un qui est dans l'assemblée, là. J'ai amené avec moi. En fait, je me suis dit, la solution pour faire avancer le sujet, c'est de mobiliser les énergies qui sont là. Elles dorment, elles sont dans chaque personne de notre équipe. Certains ne sont pas du tout sensibles, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont qu'une envie, c'est d'avancer, donner du sens à leur travail. Donc la coopération a ça de très important chez nous, c'est qu'on arrête le fleuve emballé, ça m'interpelle beaucoup ce qu'a dit M. Loup tout à l'heure, on arrête le fleuve emballé, on se met dans une salle, on réfléchit ensemble et on capte les énergies et ce que l'on peut faire avec ce que l'on a. Et ça déjà, c'est une énergie inépuisable, elle est renouvelable et elle fonctionne très très bien. Là, j'ai un groupe de 17, peut-être 20, je regarde Corentin, je ne sais plus, qui travaillent aujourd'hui, tous les jours, sur des sujets d'écologie. Et notamment, là, on est parti sur le traitement des déchets et tout le tri, le compost. Ils ont mis en place des choses cet été tout seuls. C'est-à-dire, moi, je n'ai rien fait. Et l'équipe, en plus de son boulot, dans son boulot, dans son quotidien, a mis en place des actions. Donc, voilà, c'est une façon de témoigner sur le fait que pas de moyens n'empêchait pas de faire des choses. À partir du moment où on arrivait à arrêter le temps. Et c'était pas, ça date pas du confinement, ça date d'avant, ça fait 3 ans qu'on fait ça. On se fait violence, hein. S'arrêter une journée ou 2 heures ou 3 heures, faut prendre ce temps. C'est très compliqué.
Si on écoute bien, en fait, chacun de vos témoignages, le point commun, c'est toujours partir de là où en sont les personnes, c'est-à-dire les gens, s'ils ont envie de venir voir un concert, c'est-à-dire chacune et chacun, s'ils ont envie ou pas de se lancer dans ce compost. Vos collaborateurs, le public que vous pouvez accueillir. Valérie Nouvelle, c'est le centre de votre engagement, partir de là où sont les personnes, parce que quand on n'arrive pas à payer son chauffage à la fin du mois, venir parler tri des déchets ou autre, pour vous, c'est difficile dans le contact que vous avez avec les administrés.
Oui, moi je pars du principe qu'on préserve bien la biodiversité que si on en a envie. Et aussi, si on arrive à voir qu'effectivement, c'est un facteur d'innovation merveilleux et que ça va nous rendre plus heureux demain. Donc, c'est vrai que En tant qu'élu, moi, je suis très attachée à la démocratie française. C'est merveilleux qu'on ait cette démocratie, qu'on puisse voter. Et je pars du principe que quand les habitants choisissent un élu, c'est parce qu'ils se disent, je pense qu'en regardant, là, il est à même de porter mes aspirations et justement de ne pas être là pour me donner des contraintes, mais pour m'aider, m'accompagner dans mes projets. Et je pars en, donc partant de cela, je suis toujours en fait à l'écoute, à l'affût de ce qui peut se passer sur le territoire, parce que je sais comme vous qu'il y a une énergie phénoménale dans tous les mon choix. Et je vais vous citer un petit exemple que je trouve qui résume très bien en fait, la démarche du département et tout ce qu'on peut faire en partant justement de cette écoute. Dans la Manche, il y a une association qui s'est intéressée aux hérissons. En disant aux hérissons, c'est une espèce protégée. Je vous en parle parce qu'il y a pas mal d'articles dans la presse et chaque fois vous me dites que c'est un projet merveilleux. Je le raconte en quelques mots pour ceux qui ne le connaissent pas. En fait, cette association se dit « Je vais protéger le hérisson, espèce protégée, et puis on est dans une démarche zéro phyto dans les jardins. Et si on veut ne pas dire qu'il n'y a plus de phyto dans les jardins, il faut aussi donner les moyens aux jardiniers de lutter contre les insectes nuisibles de son jardin. » Et le hérisson, c'est un formidable insecticide. C'est l'allié du jardinier. Cette association, elle s'est dit, j'ai protégé le hérisson, puis elle s'est aperçue que ben, nos jardins, aujourd'hui, il n'y a pas des tas de bois morts, comme dans les espaces naturels sensibles du département, où les hérissons, on fait en sorte d'entretenir son habitat, de faciliter ses conditions de vie. Donc elle s'est dit, je vais commencer à fabriquer des abris hérissons. Et puis cette association, c'est 10 bénévoles à la retraite, qui fabrique dans un abri de jardin des abris à hérissons pour mettre dans le jardin. Et donc, je vois cette action et puis le président me dit « Là, Valérie, j'ai plus assez de bras. » Parce qu'en fait, des abris à hérissons, j'ai des commandes, j'ai 200 commandes et là, les bénévoles, ils n'ont même plus le temps de garder leurs petits-enfants, c'est une catastrophe. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à partir de ça? Eh bien, en fait, on est sorti de son abri de jardin. Et puis, j'avais écouté tout ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, je me retrouve le soir, je mange toujours froid, parce que les gens, ils appellent. Et puis, ils veulent savoir comment on met, parce qu'il envoie des kits à hérissons avec son association. Puis les gens appellent en disant, la deuxième planche, là, où est-ce que je la mets pour que le chat rentre pas dans l'abri. Et donc, il mange froid, sa femme commence à trouver ça pas très drôle. Et il m'a dit, j'ai ça. Et puis, des échanges passionnés sur où est-ce qu'il faut le mettre dans le jardin. Alors, je lui ai dit, écoute, c'est très simple. Au niveau du département, moi, je vais en fait prendre en charge à tes côtés la réalisation d'un tuto qui va expliquer comment on monte l'abri et puis où est-ce qu'il vaut mieux le mettre dans le jardin. Première étape. Donc, atelier un samedi matin sur la commune de Sainte-Suzanne avec les enfants de la commune qui sont venus fabriquer des abris. Et puis, on en a fait un tuto avec une radio, avec une télé de la Manche qui s'appelle TV. Donc, mobilisation d'un autre acteur du territoire, les enfants de la commune, ils ont fait ce petit tuto, et puis l'association a expliqué, cette association Les Goélands a expliqué où est-ce qu'il fallait mettre l'abri. Donc, déjà, on a levé une difficulté. Puis après, 200, 300 commandes, et puis le confinement arrive, et il y avait encore plus de commandes, de la France entière, de la Belgique. Donc là, ce qu'on a fait pas plus tard que mardi dernier, c'est une réunion avec les établissements protégés de la Manche. Donc il y en a sur toute la Manche. Et puis les classes, les collèges, les classes de SECPA, des établissements qui s'occupent d'adultes qui sont en situation de handicap. Et tous autour de la table, en fait, je leur ai dit, écoutez, moi je vais vous faciliter les choses pour les abris. Est-ce que vous, ça vous intéresse de fabriquer ces abris? Donc là, la démarche est enclenchée, y compris la discussion entre eux de dire, ben, les ESAT ont dit, nous on va fabriquer du matériel. Et puis, D'autres centres ont dit, nous, on va juste les monter. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, là, ce groupe s'est créé. C'est des gens qui sont sur toute la Manche qui m'ont dit, bah, merci au département de nous réunir, parce qu'on est dans le feu de l'action, comme vous dites, et puis on n'a pas le temps de se
faire. Ça fait le rôle d'agrégateur, en fait, dont parlait Mathilde.
Voilà, le rôle d'agrégateur. Et donc, en fait, fabrication maintenant par ces structures. Et puis, ça va permettre aussi aux enfants et aux adultes de livrer aux personnes qui ont commandé cet abri. Je trouve que c'est très valorisant pour en fait ces personnes de pouvoir avoir en face d'elles la personne qui a fait la commande, qui va partir avec l'abri, le mettre dans son jardin. Donc on a fait du lien. Et dernier point, c'est que derrière tout ça, c'est une espèce protégée. Donc, en fait, j'ai demandé au groupement mammologique normand, qui est un des partenaires du département sur ces espaces naturels, de me faire un outil numérique pour cartographier le hérisson. Ça permet aux habitants, quand il y a un hérisson qui vient dans l'abri, de dire « j'en ai un sur ma commune ». Et en fait, ces données de sciences participatives vont permettre d'accroître la connaissance des mouvements de cette espèce et puis de créer un lien scientifique aussi avec les habitants. Ils sont là aussi pour répondre à leurs questions. Donc moi, je crois très fortement, oui, c'est un petit exemple, hérisson, mais pour moi, cet exemple d'impulsion de collectivité, pour peu qu'on soit à l'écoute des besoins des usagers, c'est un levier, pour moi, formidable. C'est en ça que je dis que l'écologie, c'est un facteur d'innovation environnementale et sociétale, comme le disait Nicolas Hulot tout à l'heure. Donc ce petit exemple, on peut le dupliquer sur plein de thématiques. Donc dans la Manche, j'en suis persuadée.
Merci pour ce témoignage aujourd'hui, effectivement, et la nature, j'imagine, à nous convaincre aussi à s'écouter les uns les autres pour partir de là où sont les besoins avant de rentrer dans une phase plus environnementale. J'avais envie de revenir, François Lamotte d'Argy, avec vous sur la question du plastique. La question des plastiques, évidemment, préoccupe tout le monde aujourd'hui. Est-ce que il y a plus ou moins de déchets plastiques dans la baie aujourd'hui qu'hier? Est-ce que la situation s'améliore? Est-ce que la situation s'aggrave, vous qui la traversez depuis des années?
Alors, tout d'abord, je traverse la baie à titre professionnel, donc de façon vraiment très régulière. On parle de 150-200 fois par an, depuis 7 ans. Donc, c'est finalement relativement court. Je crois que sur ces 7 années, ça reste... ça a été en augmentation, maintenant ça stagne. Je pense que il y a eu des mesures qui ont été prises. Le problème, c'est qu'il y en a. Je crois qu'il y a beaucoup de plastique qui est enfoui dans le sédiment et qui parfois continue à ressortir. Les rivières divaguent quelquefois et ça va creuser à un endroit et sortir du plastique qui a peut-être été enterré il y a 10 ans. Donc c'est une bombe à retardement, ça, et on voit pas trop ce qu'il y a dedans. J'ai oublié de citer la provenance de ces plastiques, je crois, tout à l'heure. C'est beaucoup l'activité de pêche. Pêche, c'est pas seulement la pêche sur les bateaux, mais aussi l'élevage des moules et des huîtres. On retrouve beaucoup de plastique qu'on met autour des bouchons pour éviter que des crabes montent et rentrent dans les moules et la rendent ainsi impropre à la consommation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup.
Il n'est pas là aujourd'hui, on vous le disait tout à l'heure, il a de la fièvre, le représentant des pêches aurait, je pense, sans me faire son porte-parole, dit qu'il y avait quand même eu, qu'il y a quand même aujourd'hui chez les armateurs, chez les jeunes gens, une vraie prise de conscience, et qu'aujourd'hui, il me l'a dit, donc je vous permets de le citer, on ne rejette plus les plastiques qu'on pêche dans les filets, qu'on les garde sur les bateaux et on décharge à terre, ce qui ne se faisait pas peut-être quand lui a commencé dans le métier, donc pour avoir peut-être aussi la vision de ce monde de la pêche. Au Mélion, vous vouliez réagir? J'ai cru que vous me faisiez un signe. Ah non, c'est pas moi qui vous parle.
Je voulais justement illustrer en son absence une coopération effectivement qu'il y a avec la unité de la pêche. C'est que je vous citais tout à l'heure les collecteurs à déchets plastiques qui sont notamment le long du Quénon, hein, parce que la ville de Pont-Orson a une bonne idée déjà d'en mettre le long du Quénon. En fait, ces collecteurs, c'est pareil, il fallait les fabriquer en grand nombre. Et donc il y a un ESAT qui est partenaire du projet et les enseignants de l'ESAT ont dit, mais au lieu de mettre un grillage, on pourrait mettre des poches à huîtres. Donc ça permettrait de les recycler, s'assurer qu'elles n'arrivent pas dans la baie. Et donc il y a une mobilisation, justement, des ostréiculteurs qui ont dit, effectivement, on va collecter ces poches plastiques pour fabriquer le collecteur, le collecteur recyclé. Et c'est vrai que j'en suis témoin, les jeunes professionnels sont très attentifs à ça parce qu'eux aussi, ils se promènent souvent dans la mer, ils y travaillent, ils ont plaisir à y être sans arrêt, et ils se rendent compte de ce que vous évoquez. Donc on peut avoir des coopérations aussi vraiment reliées intelligentes qui mettent en valeur aussi ces professions et leurs actions.
Et quand est-ce qu'on va avoir ces collecteurs du côté de la partie de la zone qui est traversée? On estime à peu près à 300 000 personnes. Le nombre de personnes qui traversent, ça ferait un bel objet de faire ensemble, pour faire ensemble. S'il y a un collecteur, on peut ramasser, parce que ce qui se passe en ce moment, à Saint-Léonard, par exemple, qui est un des lieux de départ des traversées, c'est qu'il n'y a rien du tout. Donc, je vais souvent à la déchetterie
pour ramener tout ce que je ramène dans la baie.
C'est le but justement aussi de l'accompagnement du département de l'association Opertos, c'est qu'en fait, déjà, ils ne sont pas très nombreux, ils ont été rejoints par deux services civiques, d'ailleurs, je suis l'engagement en fait, de ces jeunes, j'ai moi-même aussi pris au département un stagiaire en alternance là-dessus pour monter en puissance cette collecte, mais vous voyez, il fallait aussi au début que les habitants aient envie de participer à cette action. À la sortie du confinement, les gens sont à nouveau promenés sur les plages de la Manche. Et en fait, on remontait des quantités de déchets, les élus du littoral, donc ils sont phénoménales. Ils ont dû effectivement mobiliser leur service de collecte déchets plus qu'avant. Mais vous voyez, en fait, des anciens maires me disaient, avant, les gens, ils se promenaient sur la plage, ils voyaient les déchets, ils ne touchaient pas. Alors que là, c'est devenu, il y a un réflexe des personnes, ils voient le déchet, ils le remontent à l'endroit où ils pensent que ce sera accessible par la commune pour l'enlever. Donc il fallait aussi cette dynamique pour après mettre en synergie ça et puis l'action publique. Encore une fois, donc c'est les actions publiques qui partent de rien, qui imposent, c'est pas mon fonctionnement. Donc là, c'est vrai que c'est pareil. Je pense que les personnes qui font la traversée, aujourd'hui, elles font attention au plastique. C'est bien comme moi qu'il y a quelques années, mais c'était pas le cas.
Mathilde Lamandergy, vous vous sentez soutenue avec votre équipe, une dizaine de personnes, une dizaine de bénévoles, justement. Vous avez le sentiment que cette prise de conscience, quelle est la moyenne d'âge chez vous? Est-ce que justement vous êtes tous plutôt jeunes?
Dans notre équipe?
Ouais.
Oui, on est tous plutôt jeunes, on a tous environ, pas tout le monde, le président de notre association, qui est mon père aussi. Au début, c'est une histoire de famille. Mais sinon, on a tous, mis à part lui, on a tous 25 ans.
À quoi vous associez cette prise de conscience de cette jeune génération, justement?
À quoi est-ce que je l'associe? Je ne sais pas exactement, c'est-à-dire que la situation s'aggrave, qu'on en entend de plus en plus parler, même si c'est jamais assez à mon sens. Je pense qu'on a peur pour notre avenir, quoi. Tout simplement,
En dehors du festival, est-ce que vous portez des actions, justement, en dehors de l'année, pour continuer à gagner en visibilité?
Oui. Alors, depuis maintenant un an et demi, on en intervient dans des écoles. Donc on a construit des modules de sensibilisation sur différentes thématiques, donc ça va de l'énergie à l'alimentation, voilà. Et c'est des modules qu'on a construits sur le modèle de l'éducation populaire. Donc l'idée, c'est quelque chose d'assez horizontal. L'idée, c'est pas qu'il y ait une espèce de connaissance descendante et que nous, on explique aux enfants, voilà, c'est comme ça, il faut faire comme ça. L'idée, c'est que les enfants aillent toucher d'eux-mêmes les enjeux, les problématiques. Alors évidemment, c'est à la richesse de l'enfant, on ne fait pas des choses trop complexes, mais par exemple, on les emmène dans des fermes maraîchères, voilà, ils vont planter des choses, ils discutent, ils voient la plante évoluer, ils se rendent compte de ce qu'il lui faut, etc. Donc ça, c'est une des premières actions qu'on mène donc dans les écoles primaires, et on va bientôt faire ça dans les collèges. Et ensuite, on organise aussi ce qu'on a appelé le Normand durable. C'est un salon des métiers de la transition écologique, en partenariat avec l'Université de Caen. Et là, l'idée, on est parti de notre propre petite expérience d'étudiants en fin de cursus. On s'est dit, OK, maintenant, on a chacun une ou deux compétences. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Qu'est-ce qu'on nous propose? Où est-ce qu'on peut s'investir? Dans quelle entreprise? La majorité des entreprises ne sont pas suffisamment vertueuses à notre goût. Et donc, on s'est dit, voilà, il faut mettre en relation des entreprises qui cherchent des compétences avec des étudiants qui voudraient s'investir dans le bon sens, entre guillemets. Donc ça, c'est une deuxième action.
Sonia Mignon, dans votre entreprise, justement, on a fait l'acquisition très récente d'un logiciel qui vous permet de suivre en temps réel, justement, votre valeur verte, entre guillemets.
Oui, ça a été une perfide du confinement. On a fait d'une contrainte une opportunité. Nous avons pu, pendant cette période-là, nous équiper d'un logiciel, un SIG, en fait, qui nous permet de mesurer notre impact environnemental. Alors, il n'est pas encore tout à fait incrémenté, les données sont faramineuses, hein, il y a 45 ans, 1000 feuilles à rentrer dedans. Mais à terme, ce logiciel nous permettra d'avoir notre impact en temps réel, que ce soit en énergie, sur l'eau, sur la biodiversité, sur les arbres, sur l'ensemble en fait de nos éléments. Et on aura une sorte de bilan compte de résultats de notre entreprise en temps réel et en fin d'année.
Ce qui vous permettra d'adapter.
Qui nous permet d'adapter évidemment nos actions. Et je voudrais faire un petit parallèle sur les entreprises vertueuses ou pas. Nous avons la chance de travailler en famille, d'être dans notre parc notre vision et de partager notre terrain de jeu d'enfance avec un maximum de personnes. Cette vision, c'est une vision un peu angélique aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire que c'est notre passion, c'est de partager ce lieu d'enfance. Mais aujourd'hui, on est camping, hein, c'est notre première activité, c'est un camping. Sur 10 000 campings, il doit en rester 30 de notre taille indépendants. Tous les campings ont été rachetés par des groupes financiers dont la première action est de prendre le cadastre et de redécouper toutes les parcelles pour mettre des mobilhomes à la chaîne. Et en fait, ça, je pense que ces groupes n'ont pas du tout la conscience de leur impact écologique, même si c'est un tourisme vert. Et le fait, en fait, du regroupement de toutes nos entreprises à tous les niveaux d'économie pour faire d'énormes consortiums financiers, financés par des fonds de pension, biaise la donne. On est vraiment... Alors, dans notre région, nous sommes un gros, dans notre coin, dans notre biotope, mais à l'échelle nationale européenne, on est un microbe. Et pour survivre dans ce biotope, je vous assure qu'il faut vraiment être bien accroché. Voilà. Donc nous, ça nous permet de faire des choses parce qu'on y croit, c'est notre ADN. Mais quid pour la planète de ces gros...
C'est ce qui rend votre engagement d'autant plus intéressant.
Il est naturel. Mais il n'est pas naturel pour une entreprise qui ne travaille que le financier. Donc faire ce bilan vert, peut-être qu'un jour le gouvernement s'en inspirera. Je pense que la décarbonisation va nous amener à être obligés de faire ça. Je pense que ça, c'est la suite. Je l'espère, parce que c'est assez passionnant et ça donne une autre consistance à notre travail de tous les jours.
Pour terminer, parce qu'on est quand même dans un lieu de spiritualité, cet engagement pour le diocèse, Sœur Claire-Annaëlle, il était naturel. Cette encyclique du pape François aussi, Laudato Si, elle est peut-être venue donner un coup de fouet pour qu'il y ait un avant et un après sur le positionnement de l'Église sur la question écologique.
Oui, c'est vrai qu'en fait, il y a 5 ans, donc, le pape François a écrit une lettre pour tous. Pas simplement pour l'Église, Laudato Si, loué sois-tu. Ça faisait des années hein, que l'Église quand même est attentive à ça et en chemin, mais c'est sûr que cette encyclique, elle a donné une visibilité aussi et puis une accessibilité à ce souci que porte l'Église. Pour le pape François utilise souvent cette expression « notre maison commune ». Donc d'en prendre soin, déjà de voir un peu les dégâts, et puis d'en prendre soin, et puis de voir qu'on veut qu'elle tienne debout et ensemble. Il parle aussi souvent dans cette encyclique de symptômes, comme un corps vivant, et où il y a toute une histoire d'une maladie, et puis on regarde un petit peu ce qui se passe, on se rassemble en staff, et puis on voit un petit peu comment est-ce qu'on peut aider en fait, que ce corps reste vivant, puisqu'on en fait tous partie, que ce soit l'environnement ou bien chacune de nos vies. Et du coup, dans l'élan de cette encyclique, en tout cas l'Église de France a choisi en fait que pour chaque diocèse, un référent soit nommé et choisi donc par l'évêque pour prendre en charge en fait cette question écologique. Donc ici, c'est une jeune femme en fait qui est de Avranches et qui pour l'ensemble du diocèse est cette référence écologique qui va éveiller sur cette question, les différentes paroisses aussi, puis l'Église en général, pour pouvoir voir. Déjà au niveau local, on n'est pas dans la même situation quand on est à Paris, quand on est dans la Manche, c'est pas tout à fait les mêmes questions, il faut vraiment coller à la réalité. Quoi.
Ce qui prouve bien que, quelles que soient les institutions, les entreprises, les associations, voilà. Tout le monde est en chemin, j'espère, dans la même direction. Merci beaucoup à toutes et à tous pour vos témoignages. On va laisser un temps de questions à la salle. Si vous souhaitez, évidemment, réagir à des choses que vous avez entendues, si vous avez besoin de précisions, les différents acteurs qui sont là, encore pour quelques instants, peuvent répondre à vos questions. François Lamotte d'Argy a un petit planning assez serré, donc s'il y a une question à son adresse, à son intention, peut-être peut-elle être la première en particulier, sinon on le remercie vivement et profitez bien de la baie, je crois qu'il fait encore bon.
Ah, mais... Donc on habite un petit village qui s'appelle Céo, donc dans la baie du Mont-Saint-Michel, du côté sud. Et nous avons vu une véritable métamorphose au niveau de la Roche-Tourin en quelques mois. Le lit de la Céline a changé, il est beaucoup plus proche de la C. Et on avait un endroit extraordinaire. Mais maintenant on peut carrément s'avancer dans la baie sans aucun risque parce que il y a des... salicorne qui pousse en abondance. Alors c'est très bien, hein, c'est le haricot de la mer. Mais voilà, au niveau de... On parle du désensablement, moi je dirais pas du désensablement, mais de l'ensablement de la baie du Mont-Saint-Michel. Voilà. C'est juste un témoignage. Merci.
Moi, je voudrais confirmer également ce qui se passe de côté breton. C'est-à-dire que moi, j'habite dans la baie du Mont-Saint-Michel, mais plus près de Cancale. Et ce que vous avez effectivement constaté, cette modification de la baie, est forcément aussi constaté chez nous, notamment un engagement assez significatif qui rend même les déplacements des pêcheurs à pied très dangereux. Donc, il s'agit particulièrement de Saint-Benoît et de l'Irel. Et là, effectivement, donc, on s'aperçoit qu'il y avait un grand changement, et très rapidement. Donc il y a de nouveaux dangers, en fait, pour celui qui connaissait la baie avant, et qui aujourd'hui ne veut plus s'aventurer comme il le faisait.
Merci pour ce témoignage.